Voilà, merci à vous. Alors, ce matin, Étienne Lermeneau nous a parlé de structure en sandwich. Et on peut remarquer que la structure du plan de la journée est aussi en sandwich, puisqu'Étienne a commencé par un volet biblique et qu'il m'a été demandé de terminer la journée, de faire la dernière intervention aussi sur le volet biblique. Et donc nous reviendrons sur la question de l'avenir de notre monde, de l'avenir de la Terre. Alors Lydia Yeager ce matin nous a donné quelques principes bibliques fondamentaux pour servir de cadre à notre réflexion. J'avais aussi prévu de commencer par là. Et donc, je reprendrai certaines choses qu'elle a dites ce matin, mais j'en ajouterai aussi d'autres. Donc, je commence par quelques rappels d'enseignements fondamentaux de l'Écriture pour servir de cadre à notre réflexion. Nous croyons en un Dieu transcendant qui seul n'a pas de commencement et qui a créé à partir de rien l'univers et tout ce qu'il contient. En fait, qui a créé tout ce qui existe en dehors de lui. Nous croyons que Dieu est souverain sur sa création, il la maintient en existence par sa parole toute puissante. C'est de lui que chacune de ses créatures reçoit la vie, le mouvement, l'être, à chaque instant de son existence. Autrement dit, le monde n'est pas une horloge qui fonctionnerait sans l'horloger qui l'a fabriquée. Dieu a instauré un ordre dans sa création que l'on peut formaliser en termes de lois naturelles. Et le maintien de cet ordre naturel dépend à chaque instant de l'œuvre providentielle du Créateur. Nous croyons aussi que Dieu est intervenu dans le cours de l'histoire humaine pour faire advenir des événements ou des phénomènes qui sortent du cadre du cours naturel des choses. Et puis un dernier point, il existe un autre monde que celui qui est accessible à notre perception, à notre observation, un monde d'êtres incorporels qu'on appelle les anges. Ces êtres peuvent intervenir dans le monde des hommes et avoir une action sur le cours de l'histoire terrestre. Ils ne sont pas à demeure sur la terre, semble-t-il. Alors la Bible situe leur demeure dans ce qu'elle nomme le ciel. Est-ce que c'est une simple manière de parler? Ou bien y a-t-il un lieu dans notre univers, ou peut-être au-delà de notre univers, je ne sais pas, un lieu circonscrit qui soit la demeure des anges? La question se pose. Toujours est-il que les anges ne sont pas omniprésents, et à un instant T, chacun d'eux se trouve localisé à un endroit. Donc voilà les quelques enseignements fondamentaux que je voulais rappeler pour commencer. Mon premier point consistera à considérer maintenant un événement historique paradigmatique pour débuter donc la réflexion proprement dite sur l'avenir de la Terre. Un événement historique paradigmatique. Il s'est produit dans l'histoire humaine un événement auquel nous devons attribuer une fonction paradigmatique pour notre réflexion, et il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Cet événement est l'effet d'une intervention de Dieu par son Esprit, une intervention qui sort du cadre du cours naturel des choses. Il y a là une discontinuité forte avec l'ordre naturel actuel des choses. Mais il faut aussi relever la continuité que présente cet événement avec l'ordre actuel des choses. Jésus ressuscité a un corps de chair et d'os qui porte les marques des clous. Jésus ressuscité mange et boit avec ses disciples. 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté au ciel dans son corps, et l'ange qui s'est adressé aux apôtres qui avaient été témoins de l'ascension de Jésus, l'ange a affirmé que Jésus reviendra de la même manière que ses disciples l'ont vu monter au ciel. Et ceci souligne encore une fois la continuité. Jésus reviendra avec ce même corps dans lequel il a vécu sur terre et avec lequel il est ressuscité et monté au ciel. Et c'est pourquoi j'affirme que ces événements passés ont une valeur paradigmatique pour notre réflexion sur l'avenir. Alors, où Jésus est-il allé suite à son ascension? Je l'ignore, mais il est quelque part. Il est toujours dans son corps. Il existe donc un lieu de vie pour l'homme Jésus dans son corps, quelque part. Est-ce dans l'univers? On nous a rappelé ce matin à quel point l'univers est vaste et l'on peut imaginer qu'il y a une place où se trouve Jésus actuellement dans l'univers. Où est-ce au-delà de l'univers? Je l'ignore. De plus, les croyants décédés se trouvent eux aussi en ce même endroit, mais sans leur corps, sauf peut-être Enoch et le prophète Élie. En effet, l'apôtre Paul enseigne que par la mort, le croyant va auprès du Seigneur. Philippiens chapitre 1, verset 23. De plus, Jésus a déclaré au brigand qui était à ses côtés sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À sa mort, l'esprit humain de Jésus a été transféré dans ce lieu où se trouvent les croyants décédés, jusqu'à ce qu'il réintègre son corps lorsqu'il est ressuscité sur terre. Et de même, l'esprit du brigand est allé dans ce lieu que Jésus appelle le paradis. Et puis à son ascension, Jésus s'est rendu dans son corps cette fois, en ce même lieu. Et l'on peut se demander si ce lieu ne serait pas aussi le lieu où demeurent les anges. Deuxième point, la résurrection de Jésus est paradigmatique de notre résurrection à venir. L'apôtre Paul déclare que par sa résurrection, Christ est les prémices des croyants décédés. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, je lis au verset 20 à 23, mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Les premiers fruits de la moisson, les prémices étaient les premiers produits que l'on récoltait et qui annonçaient la suite de la moisson. Et les prémices sont de la même nature que le reste de la moisson. Ainsi, par cette image des prémices pour la résurrection de Christ, l'apôtre nous enseigne que notre résurrection sera semblable à celle de Christ. La résurrection de Christ est paradigmatique de la nôtre. Paul d'ailleurs continue, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, par Adam, la résurrection vient aussi par un homme, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu comme les premiers fruits de la moisson, les prémices. Ensuite, au moment où il reviendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. La résurrection de Christ est paradigmatique de la nôtre. Comme la résurrection de Christ, la nôtre présentera une certaine continuité avec l'ordre actuel des choses. C'est le corps que nous avons maintenant qui sera ressuscité. Ressuscité, d'ailleurs, c'est ressuscité, suscité à nouveau. L'apôtre Paul est clair à cet égard. Philippiens 3, 21, car Jésus-Christ transformera notre corps misérable. Ce corps que nous avons maintenant, qui est misérable. Il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Notez ici l'équivalence établie entre le corps ressuscité de Christ et notre corps futur. Notre corps futur sera rendu semblable au sien, à son corps ressuscité. Et donc, ce qui fait l'objet de la transformation évoquée ici, c'est notre corps humilié, misérable, le corps que nous avons aujourd'hui. Notre corps ressuscité sera notre corps actuel de chair et d'os. Et de même que Jésus a mangé et bu après sa résurrection, nous boirons du vin nouveau avec lui dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit, Matthieu 26, verset 29. Mais il n'y a pas simple continuité entre notre corps ressuscité et notre corps actuel. Il y a aussi discontinuité. Notre corps actuel sera transformé et rendu glorieux, d'après le texte que nous venons de lire. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul donne quelques précisions indiquant en quoi notre corps sera différent. Il sera transformé de manière à devenir incorruptible et donc immortel. 1 Corinthiens 15, versets 42 et 43, il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Et versets 51 à 54, je vais vous révéler un mystère, nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Notez encore ici la continuité. C'est notre présent corps corruptible et mortel qui doit revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Incorruptible, ça veut dire que notre corps ne sera plus sujet à la maladie, à l'infirmité, au vieillissement, à la souffrance. Immortel, il ne sera plus sujet à la mort. Infirmité, vieillissement, souffrance, maladie, mort, c'est ce qui est englobé lorsque Paul parle d'infirmité ou de faiblesse au verset 43, ou encore du corps corruptible. Paul dit aussi que notre corps deviendra littéralement spirituel. C'est aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, verset 44, il existe aussi un corps littéralement spirituel. Spirituel, ici, ça ne signifie pas immatériel, mais ça signifie un corps qui est l'objet de l'œuvre de renouvellement du Saint-Esprit. Et peut-être aussi un corps qui est pleinement animé par l'Esprit, au service du Saint-Esprit. Notre corps va donc passer par une transformation qui le rendra radicalement nouveau. Remarquez que la nouveauté consiste non pas dans le don d'un autre corps, et que la nouveauté consiste en la suppression des conséquences du péché, la maladie, l'infirmité, le vieillissement, la mort. Paul donne, pour éclairer ce qu'il dit à propos de notre résurrection, une illustration qui souligne à la fois la continuité et la discontinuité. 1 Corinthiens 15, versets 35 et 38. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensé que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Entre la semence mise en terre et la plante qui pousse, il y a une continuité. La plante sort de la semence mise en terre. C'est la semence qui germe, qui pousse et qui devient la plante. Mais il y a aussi discontinuité. car la plante est différente de la graine semée. Elle n'a pas le même aspect. Et bien de même, il y aura continuité entre notre corps ressuscité et notre corps actuel. Et en même temps, il y aura discontinuité, transformation profonde. Troisième point, l'avenir de la création, et en particulier celui de la terre, est lié à l'avenir de notre corps et présente des similitudes avec le sort que doit connaître notre corps. Et puisque la résurrection de Christ est paradigmatique de notre résurrection, bien par conséquent, la résurrection de Christ est paradigmatique aussi pour notre réflexion sur l'avenir de la terre. Le lien entre notre résurrection et l'avenir de la terre est établi par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, versets 18 et suivants. J'ai oublié de le dire, je précise que c'est dans la Bible du Semeur que je lis, moi aussi. Romains 8, 18, j'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler pour nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, on a mis dans la Semeur, on pourrait traduire à une condition misérable, ou encore, second avait traduit à la vanité, et en fait on a là une référence à la thèse de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Cela ne s'est pas produit de son gré, du gré de la création, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Donc Paul affirme que la création attend la révélation des enfants de Dieu, verset 20. Il affirme qu'elle sera libérée de la corruption qui l'a servie et qu'elle aura part à la libération que les enfants de Dieu connaîtront et qui aboutira pour eux à leur glorification, verset 21. Dans le contexte, notre libération dont il parle, c'est la résurrection de notre corps. Nous attendons littéralement l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est notre résurrection qui est en cause. Donc la création va connaître quelque chose de semblable à la résurrection de notre corps. La libération de la création est d'ailleurs décrite ici dans les mêmes termes que ceux que Paul a employés en 1 Corinthiens 15 pour notre corps. Comme notre corps, la création sera libérée de la corruption. De plus, le texte de Romains 8 suggère que c'est au moment de notre résurrection que la création va connaître sa libération. Le parallèle entre notre corps et la création permet donc de parler d'une résurrection à venir de la création. Et donc le lien entre notre résurrection et ce que va connaître la terre permet de dire aussi que la résurrection de Christ est paradigmatique pour le sort futur de la terre comme elle l'est pour notre résurrection. Il y a donc continuité. C'est cette terre présente qui va ressusciter. De même que c'est le corps de Jésus qui est ressuscité, de même aussi que c'est notre corps actuel qui va ressusciter. Romains 8, verset 23, la création est dans l'attente de sa libération. Plutôt verset 21, la création attend d'être délivrée de la puissance de corruption. C'est donc cette terre qui va ressusciter. D'autres textes bibliques vont dans le même sens. Dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 28, Jésus dit à ses apôtres, « Vraiment, je vous l'assure. » Alors là, je regrette un petit peu la traduction de la Bible du Semeur. La Semeur dit « Quand naîtra le monde nouveau ?» En fait, il vaudrait mieux traduire « Quand le monde naîtra de nouveau. » Ce serait beaucoup plus exact. « Et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Ici, Jésus parle d'une nouvelle naissance ou d'une régénération du monde. Ou encore dans Actes au chapitre 3 et au verset 21, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il parle de Jésus, il dit que Jésus doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Et il fait sans doute référence à des prophéties comme celle d'Ésaïe 65 qui annonce un ciel nouveau et une terre nouvelle, jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 20, Paul écrit encore que Dieu était en Christ pour réconcilier la création avec lui-même. C'est par lui, par Jésus-Christ, que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. L'interprétation de ce texte est débattue, je ne vais pas rentrer dans le débat ici, mais selon celle que je retiens, je crois que Paul est en train de dire que la croix a des conséquences, pas simplement pour les croyants, et que la croix a des conséquences pour l'ensemble de l'univers que Dieu a créé. Dieu a réconcilié l'univers avec lui, l'univers qu'il avait maudit, selon Genèse 3, le sol est maudit à cause du péché humain. Dieu le réconcilie avec lui-même, et c'est sur la base de cette réconciliation que Dieu projette la restauration, le renouvellement de la création. Il y a continuité, c'est cette terre actuelle qui va ressusciter. Mais il y a aussi discontinuité. Comme dans le cas de la résurrection de Christ et comme pour notre résurrection, la résurrection de la terre sera l'effet d'une intervention de Dieu par son esprit qui sort du cadre du cours naturel et du cours actuel des choses, qui sort du cadre des lois que l'on découvre dans l'univers. Ce qui signifie non pas que la science n'aurait rien à dire sur l'avenir de la Terre, mais que ce qu'elle a à dire est nécessairement limité, que l'avenir de la Terre sort fondamentalement du cadre de ce que la science est capable de prédire indépendamment de la révélation biblique. Une autre remarque que j'aimerais faire quant à la discontinuité entre la condition présente de la Terre ou de l'univers et sa condition future, c'est que la Bible met l'accent sur une transformation qui est avant tout libération des conséquences du péché. Comme c'est le cas pour notre corps, la création doit être libérée de la puissance de la corruption qui l'a servie. On a une très belle image dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, une image bien connue, Ésaïe 11, verset 7 à 9, comme conséquence, verset 6 même à 9, qui décrit les conséquences de l'œuvre du Messie. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille, le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. Il ne se commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ésaïe reprend cette description au chapitre 65 de son livre, et là il précise qu'il s'agit d'une description des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors cette description n'est pas nécessairement à prendre littéralement, mais elle vise certainement à annoncer le rétablissement d'une pleine et entière harmonie au sein de la création, de sorte qu'il ne s'y cause plus ni mal ni dommage au sein de la création. Et c'est dire que tous les facteurs qui, dans la création, rendent la vie humaine douloureuse, tous les facteurs qui sont cause de souffrance pour les humains, disparaîtront. Et nous avons cette même idée dans l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, « Dieu essuiera », qui décrit donc la nouvelle terre, « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, des yeux des membres de son peuple, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. » Tous les facteurs qui, dans la création, rendent la vie humaine douloureuse, qui sont cause de souffrance pour les humains, disparaîtront. Alors, je vais sauter une section pour gagner du temps. Quatrième point, les textes qui semblent envisager la destruction définitive de la terre actuelle. Je viens d'affirmer la continuité entre le monde présent et le monde à venir. La terre actuelle va ressusciter et subsister. Et pourtant, Jésus n'a-t-il pas déclaré « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point » Matthieu 24, 35. Jean ne dit-il pas dans l'Apocalypse « Je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu » Apocalypse 21, verset 1. Ces affirmations n'entrent-elles pas en contradiction avec l'idée d'une pérennité de la terre, au-delà du retour de Christ ? Pour une première approche, je vous propose de mettre ces textes en parallèle avec ce qu'écrivait Paul en 1 Corinthiens 15, verset 50. Littéralement, ce texte dit « La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. » Alors, on pourrait penser, en lisant ce texte, que, et beaucoup en tirent cette conclusion, que le corps que nous aurons à notre résurrection sera immatériel, ne sera pas fait de chair et de sang. Mais ce texte ne peut pas signifier cela. Car nous avons vu que pour Paul, c'est le corps que nous avons maintenant qui va ressusciter. Notre corps ressuscité sera semblable à celui de Christ, qui était de chair et d'os. Il faut donc comprendre le texte d'1 Corinthiens 15, 50, comme signifiant que la chair et le sang, dans leurs conditions actuelles, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et la suite du verset, le confirme. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas avoir part au royaume de Dieu. Paul explique ce qui est corruptible ne peut pas avoir part à l'incorruptibilité. Et ensuite, il explique qu'il faut que notre corps se revête d'incorruptibilité, devienne incorruptible. Autrement dit, Paul veut dire que tant que la chair et le sang sont corruptibles, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour pouvoir y entrer, il leur faut être transformés de manière à devenir incorruptibles. La visée de Paul n'est pas de nous dire que notre corps futur ne sera pas fait de chair et d'os, mais que notre corps de chair et d'os ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu tel qu'il est actuellement. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans passer par une transformation qui le rende incorruptible. Et de la même manière, je crois, il faut comprendre les textes que j'ai cités juste avant. Le ciel et la terre passeront, ça veut dire que le ciel et la terre ne vont pas subsister dans la condition que nous leur connaissons actuellement. Le ciel et la terre ne subsisteront pas tels qu'ils sont aujourd'hui. Le ciel et la terre, dans la condition qui est la leur aujourd'hui, disparaîtront. Dans ce sens, non pas qu'ils seront anéantis, mais dans ce sens qu'ils seront transformés de façon à se trouver dans une condition radicalement nouvelle. Le premier ciel et la première terre qui ont disparu, d'après Apocalypse 21, verset 1, pour laisser la place à un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est un langage, me semble-t-il, qu'il faut comprendre comme signifiant que tel que nous les connaissons actuellement, le ciel et la terre doivent disparaître dans ce sens qu'ils doivent être transformés, renouvelés, changés radicalement. Cinquième point, il nous faut maintenant nous tourner vers un autre texte que nous considérerons plus en détail. C'est le texte de 2 Pierre au chapitre 3, versets 3 à 13. Et ce texte va nous apporter d'autres éléments qui confirmera l'approche que je viens de proposer pour comprendre ces textes qui nous parlent du ciel et de la terre qui vont passer. 2 Pierre 3, versets 3 à 13. Je lis ce texte. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi au ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres, littéralement les éléments embrasés, se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte ne devez-vous pas mener et combien ne devez-vous pas être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les éléments embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Une première lecture peut donner l'impression que l'apôtre annonce ici l'annihilation de la terre, surtout si on lit le texte dans la version de la Colombe, par exemple, qui dit au verset 11, déjà verset 10, « En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Une première lecture peut donc donner l'impression que l'apôtre annonce ici l'anéantissement de la terre. Mais il faut se pencher de plus près sur ses propos. Notons tout d'abord la visée du texte. Pierre répond ici aux gens qui rejettent l'idée d'un retour du Seigneur et qui s'imagine que le monde va toujours continuer à tourner comme actuellement, versets 3 et 4. Et même qui s'imagine qu'il va continuer à tourner comme il tourne depuis que le monde est monde. Versets 5 à 7, Pierre rappelle que le monde n'a pas toujours tourné de la même manière depuis qu'il est monde. Il rappelle l'événement du déluge. Dieu n'a pas laissé le monde par le passé. Dieu n'a pas laissé le monde tourner par le passé sans intervenir. Il est intervenu pour un jugement, par un événement retentissant, le déluge. Et Pierre établit un parallèle ici entre l'événement futur qu'il prédit et le déluge du passé. Or, on peut remarquer que le déluge n'a pas amené l'annihilation de la terre. Donc, on est en droit de penser que l'événement futur que lui compare Pierre ne va pas nécessairement aboutir à l'anéantissement de la terre. D'autre part, il faut noter le langage utilisé par Pierre à propos du déluge. Au verset 5, il dit « Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. » Dans la colombe, « Il y eut autrefois un ciel et une terre, suscités par la parole de Dieu. » Et puis, au verset 6, il dit « Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. » Et verset 7, « Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. » Pierre, dans sa manière de s'exprimer, semble opposer ici la terre et le ciel d'autrefois détruits par le déluge à la terre et au ciel actuel. Et si nous ne connaissions pas l'histoire du déluge, nous déduirions de ce texte qu'il y a eu une première terre et un premier ciel qui n'existent plus, qui ont été détruits par le déluge, et que la terre et le ciel actuel sont une autre terre et un autre ciel que ceux que Dieu avait créés à l'origine. Si on prend le langage de Pierre, on a cette impression, si on le prend tel que. Or, Pierre connaissait très bien l'histoire du déluge. Il savait parfaitement que la terre originelle n'a pas été détruite par le déluge. Et ça n'empêche pas de s'exprimer comme il le fait ici. Il y avait autrefois une terre et un ciel, ils ont été détruits par le déluge, et puis la terre et le ciel actuel, comme si c'était une autre terre et un autre ciel. Alors ceci doit nous mettre en garde quant à la manière dont nous interprétons le langage biblique concernant l'avenir de l'univers. Ceci nous invite à ne pas tirer de conclusions hâtives des formules qui sont employées. D'une part, cela confirme qu'il ne faut pas nécessairement comprendre le langage de Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront », ou celui d'Apocalypse 21, verset 1, « Le premier ciel, la première terre avait disparu », qu'il ne faut pas nécessairement comprendre ces formules comme annonçant l'annihilation de la terre et du ciel actuel. Et d'autre part, cela nous invite à la prudence concernant l'interprétation des propos de Pierre qui viennent ensuite concernant l'avenir du ciel et de la terre. Et effectivement, une lecture affinée découvre que Pierre ne parle pas d'un anéantissement de la terre. Il écrit d'abord au verset 10 que le ciel passera, ce qui peut s'interpréter comme la parole de Jésus, le ciel et la terre passeront, mais le ciel, dans la condition qui est la sienne actuellement, passera. Il ne subsistera pas tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais il subira une transformation profonde. Il passera, nous dit Pierre au verset 10, dans un fracas terrifiant. Ce bruit fracassant peut être une manière d'évoquer la voix divine, tonitruante, souvent comparée au tonnerre dans l'Ancien Testament. Pierre parle ensuite des éléments qui seront embrasés. Le ciel disparaîtra et les éléments embrasés se désagrégeront et la terre... Je m'arrête là. Les éléments embrasés se désagrégeront. De quoi s'agit-il ? On peut penser qu'il s'agit des éléments qui composent le ciel et la terre. Mais selon une autre interprétation qui est retenue par la Bible du Semeur, il s'agit des corps célestes. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Pour l'instant, j'aimerais souligner que Paul emploie au sujet de ce qu'il appelle donc les éléments un verbe qui signifie se disloquer ou se désagréger. Donc ici, il n'est pas question d'une annihilation, mais d'une perte de la cohésion, de l'ordre, de l'organisation du cosmos, des éléments qui constituent le cosmos, ou bien des corps célestes, suivant la traduction qu'on adopte. Au verset 11, Pierre emploie le même verbe, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, pour dire que tout cela est en voie de dislocation, de désagrégation. Le même verbe apparaît encore au verset 12, le ciel en feu se désagrégera. Les cieux enflammés vont se disloquer ou se désagréger. Pierre ajoute au verset 12 que les éléments, c'est le même terme qu'au verset 10, donc le terme qui désigne soit les éléments qui composent l'univers, soit les corps célestes, les éléments embrasés se fondront. Le verbe qui est utilisé ici signifie se liquéfier, se fondre. L'effet de l'embrasement par le feu n'est pas une destruction totale, mais une fusion. Revenons sur la question de l'identification des éléments. S'il s'agit des éléments qui composent le ciel et la terre, le texte veut dire que la terre sera elle aussi désagrégée, mise en fusion par le feu. À l'appui de cette interprétation, on peut souligner que le verset 7 affirme que la terre est réservée pour le feu. Et que l'idée d'une nouvelle terre au verset 13 peut suggérer que ce passage par le feu de la terre va déboucher sur une transformation radicale de la terre et aussi du ciel. Mais aujourd'hui, bien des spécialistes pensent que le mot « élément » se rapporte non pas aux éléments qui composent l'univers, mais aux astres, aux corps célestes. Il était effectivement utilisé en grec courant dans ce sens. Et puis d'une part, on ne voit pas pourquoi l'apôtre mentionnerait les éléments composant l'univers entre le ciel et la terre au verset 10. Il dit « Le ciel disparaîtra, les astres embrasés se désagrégeront, enfin les éléments embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée. » Si le mot « élément » désigne les composantes du ciel et de la terre, on ne voit pas pourquoi les éléments sont mentionnés entre le ciel et la terre. On comprend mieux si le terme désigne les corps célestes. Pierre mentionnerait le ciel, puis les corps, les astres qui sont dans le ciel, et puis en descendant, la terre. Un autre argument en faveur de cette interprétation, c'est que Pierre semble faire ici, notamment au verset 12, écho au texte d'Ésaïe, chapitre 34, et au verset 4. Je vous lis Ésaïe 34, verset 4. Toute l'armée du ciel se désagrégera, le ciel s'enroulera comme on enroule un livre, une armée tombera comme l'on voit tomber les feuilles de la vigne ou celles du figuier. Toute l'armée du ciel se désagrégera ou se fondra. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans la Septante, c'est le même verbe que celui que nous avons dans notre texte de Pierre au verset 12 pour les éléments. Et le verbe qui signifie que les éléments embrasés se fondront. Donc, dans la traduction grecque du texte d'Ésaïe 34, verset 4, c'est le même verbe qui est utilisé. Or, dans Ésaïe 34, verset 4, il est question de l'armée du ciel. Si Pierre fait bien référence, reprend bien ce texte d'Ésaïe 34, alors les éléments désignent les corps célestes. Donc, il nous dit que le ciel va disparaître, les éléments embrasés, les corps célestes vont se désagréger et que la terre se trouvera jugée, on reviendra à cela tout à l'heure. Au verset 11, il dit « Puisque tout l'univers, littéralement, puisque toutes ces choses doivent se désagréger, quelle vie sainte devez-vous mener ?» Alors certains commentateurs pensent que toutes ces choses se réfèrent simplement aux corps célestes, dont il vient d'être question au verset 10, et non pas à la terre. Et donc, les partisans de cette interprétation considèrent qu'il ne serait pas question d'un embrasement de la terre. Seul le ciel et les corps célestes seraient embrasés par le feu et disloqués. Et le verset 7, qui dit que le ciel et la terre sont gardés en réserve pour le feu, signifierait simplement que la terre sera affectée par les conséquences de cet embrasement du ciel et des astres. Alors pour ma part, il me semble que même si par le terme élément, par le terme d'élément, Pierre désigne les astres, et je trouve qu'il y a de bons arguments en ce sens, il est quand même difficile d'évacuer du texte l'idée que la terre passe aussi par le feu. à cause du verset 7. Le ciel et la terre sont réservés pour le feu. Et au verset 11 aussi, il peut paraître plus naturel de comprendre toutes ces choses comme se référant aussi à la terre, donc au ciel, aux astres et à la terre mentionnés avant. Verset 11, puisque toutes ces choses doivent ainsi se désagréger, quelle vie sainte ne devez-vous pas mener? Alors quel est le sens de ce langage? Je crois que le verset 7 en livre la clé. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Le feu apparaît ici comme un instrument de jugement. Et ce jugement aboutit non pas à la destruction de la terre, mais à la perdition des impies, de ceux qui n'ont pas de respect pour Dieu. Alors si seul le ciel et les astres s'embrasent, on a alors affaire au bouleversement cosmique souvent mentionné en rapport avec le jugement final, comme dans le texte de Marc 13 que nous avons médité ce matin. Ces bouleversements participent du jugement final de Dieu sur les humains rebelles à sa voix. Mais si la terre doit aussi s'embraser par le feu, et je penche plutôt vers cette lecture du texte, si la terre doit aussi s'embraser par le feu, alors on est orienté vers l'idée d'une purification du cosmos, de l'univers, par le feu. De la même manière que l'on fond un métal dans le creuset pour le purifier de ses scories, la terre passera par le feu du jugement pour être purifiée des impies et de leurs œuvres. On fait aussi fondre un métal pour le façonner. Et la dislocation dont il est question ici pourrait être le prélude à une refonte, une réorganisation en un nouveau cosmos. Alors il me reste à considérer la fin du verset 10 qui parle de la terre et de son sort à venir. La fin du verset 10 présente une difficulté textuelle avec de nombreuses variantes dans les manuscrits. Selon un manuscrit, la terre sera anéantie. Selon d'autres, elle ne sera plus trouvée. Ou encore, elle sera entièrement consumée. Certains manuscrits omettent carrément la fin. Selon un papyrus, la terre sera trouvée disloquée, ce qui n'implique pas son annihilation. La leçon la mieux attestée dans les manuscrits et qui est retenue aujourd'hui par les spécialistes a un tout autre sens. Littéralement, le texte dit, donc selon les manuscrits qui sont reconnus comme portant la meilleure, la leçon la plus probable, celle qui figurait le plus probablement dans le texte original, littéralement, ce texte dit que la terre avec ses œuvres, sera trouvé. Si cette option est retenue par la majorité des spécialistes, c'est pas seulement parce qu'elle est mieux attestée que les autres dans les manuscrits, mais c'est aussi parce qu'elle permet d'expliquer les autres. En effet, l'expression « la terre sera trouvée » n'est pas immédiatement limpide. Et les variantes apparaissent comme une tentative d'expliquer ou de préciser le sens du texte. Mais malheureusement, ces tentatives de rendre le sens du texte plus clair aboutissent en fait à une altération du sens. En tout cas, quand on a la terre sera anéantie, ou elle ne sera plus trouvée, ou elle sera entièrement consumée. Il y a altération du sens. La leçon que nous retenons, la leçon des manuscrits que nous retenons, la terre sera trouvée, signifie que la terre, avec ses œuvres, sera exposée, mise en lumière en vue d'un jugement. Ou bien ça signifie qu'elle sera exposée au jugement. Et la précision, la terre avec ses œuvres sera trouvée, indique qu'il s'agit du jugement sur les œuvres accomplies sur la terre au cours de l'histoire humaine. Cette interprétation s'accorde avec le sens général du texte. L'idée d'une purification de la création par le feu et d'un jugement sur les impies. Et rappelons que le parallèle établi avec le déluge va dans le même sens. Le déluge était un jugement purificateur pour laver la terre des péchés qui se commettaient sur elle. Et puis aussi, si vous regardez le contexte d'Ésaïe 34, verset 4, que j'ai cité tout à l'heure et qui paraît être à l'arrière-plan de notre texte, si vous regardez le contexte, vous verrez que ce texte se situe dans un ensemble qui annonce le jugement des peuples ennemis de Dieu. À l'arrière-plan de notre texte, on pourrait aussi citer le texte de Malachie au chapitre 3 et au verset 19. Je le lis ici, Malachie 3, verset 19. Car voici, le jour vient, c'est la même idée du jour du Seigneur, comme dans 2 Pierre 3, ardent comme un brasier ou comme une fournaise ardente, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Le jour du Seigneur vient comme une fournaise ardente qui va consumer les impies, les arrogants, ceux qui font le mal. L'image du feu pour le jugement des impies se trouve aussi dans Ésaïe 66 et au verset 15 et 16. Le Seigneur va venir dans le feu, et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et pour accomplir ses menaces comme des flammes, car c'est avec le feu que le Seigneur exercera son jugement, avec son épée qu'il châtiera tous les humains, et le Seigneur fera un très grand nombre de victimes. Derrière notre texte, il y a tous ces textes de l'Ancien Testament qui parlent du jugement final à l'aide de l'image du feu qui va consumer les méchants. Et l'on pourrait aussi, on le peut aussi citer dans le Nouveau Testament, le texte d'1 Corinthiens 3, verset 13, où Paul dit que le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Oui, l'image du feu pour éprouver l'œuvre de chacun, pour mettre en lumière les œuvres de chacun, comme dans notre texte. Et puis chez les pères de l'Église, on a un parallèle intéressant avec notre texte et qui confirme notre lecture. Il s'agit du texte de 2 Clément, chapitre 16, verset 3. Je vous le lis. « Mais vous savez que le jour du jugement vient maintenant comme une fournaise ardente. » C'est la reprise de l'image de Malachie 3, verset 19. « Le jour du jugement vient comme une fournaise ardente. Et certaines choses du ciel vont se dissoudre. » Ça, c'est la reprise d'Ésaïe 34, verset 4. Certaines choses du ciel vont se dissoudre. Et toute la terre sera comme du plomb, se fondant dans le feu, et alors apparaîtront les œuvres humaines accomplies en secret ou ouvertement. Et vous voyez, là, la thématique de 2 Pierre, chapitre 3. Terre qui se fond pour que les œuvres humaines apparaissent et soient jugées. L'embrasement des éléments, peut-être aussi de la terre, sera-t-il le seul fait d'une intervention divine ou bien sera-t-il le résultat d'une action humaine? Bien souvent, Dieu se sert des actes accomplis par les hommes dans leur folie et qui se retournent contre eux pour exercer ses jugements. Sera-ce aussi le cas lors de la fin du monde présent? C'est possible. Le texte ne se prononce pas sur cette question. Mais ça laisse peut-être de la place aux spéculations des scientifiques. Quand cela va-t-il se produire? Si l'événement annoncé par Pierre a pour finalité le jugement des impies, il paraît plus en accord avec le texte de considérer que cet événement doit avoir lieu alors qu'il y aura encore des humains sur cette terre, et non pas postérieurement à une éventuelle extinction de la race humaine. Alors entre Romains 8, qui affirme la rédemption de la création, et 2 Pierre 3, qui parle d'un jugement de la création par le feu, il y a une différence d'accent. Paul met l'accent sur la restauration, la libération de la création. Pierre parle aussi de libération de la création en un sens. Car chez Pierre, le jugement a pour but de purifier la terre des impies et des œuvres mauvaises qui se commettent sur la terre. Mais Pierre, lui, met surtout l'accent sur le jugement à venir plutôt que sur le salut de la terre, parce que son but est de dénoncer les illusions de ces gens qui prétendent que le monde va continuer à tourner comme actuellement. De ces gens qui tirent prétexte de cela pour vivre comme cela leur chante. Et c'est pourquoi Pierre affirme que le monde va au-devant du jugement, qu'un terme sera mis à l'histoire présente, et que ces gens s'exposent à connaître la même déconvenue que ceux qui ont été surpris par le déluge. Mais entre Romains 8, qui affirme la libération de la création, sera libéré de la servitude de la corruption, et de Pierre 3, qui affirme surtout le jugement, il y a surtout une différence d'accent. Mais les textes sont complémentaires, ils ne se contredisent pas. Je terminerai par un sixième point. Oui, j'ai dépassé mon temps. Quelques perspectives sur la nouvelle terre. Pourtant, je n'ai pas de télécommande à manier. Je serai plus bref ici. Dans l'Apocalypse, Jean voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel sur la terre. Apocalypse 21, verset 2, verset 9 et 10. Je ne lis pas le texte pour gagner du temps. Je ne sais pas jusqu'à quel degré de littéralité il faut pousser l'interprétation de ces visions de Jean. Mon ami et collègue Jacques Buchold considère qu'il y a quelque part une Jérusalem céleste où Jésus-Christ a son trône et qui est peuplée des anges et des croyants décédés, et que cette Jérusalem céleste va un jour descendre sur la nouvelle terre, c'est-à-dire sur la terre actuelle renouvelée. Et donc Jacques Buchold parle d'un mariage du ciel, de ce lieu où Jésus est actuellement avec les croyants décédés, et de la terre, ce lieu descendant sur la terre. Je ne suis pas sûr qu'il faille interpréter les textes de manière aussi littérale. Toujours est-il que ce monde dont je parlais tout à l'heure, qui est constitué des croyants décédés, parmi lesquels se trouve aussi notre Seigneur, ce monde va descendre sur la terre renouvelée pour y vivre pour l'éternité. Et les croyants décédés vont ressusciter, bien sûr. On pourrait montrer que Jean dépeint la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem avec des traits caractéristiques du jardin d'Éden. Cependant, la nouvelle terre n'est pas un simple retour au paradis originel qu'il envisage. Du jardin, on passe à une ville. Et qui dit ville, dit civilisation, culture. L'au-delà n'est pas un simple retour à la case départ. Entre le jardin d'Éden et la nouvelle Jérusalem, il y aura eu toute l'histoire de l'humanité. Et Dieu ne fait pas fi de cette histoire, il ne gomme pas cette histoire, mais de même qu'il rachète la création, il rachète aussi l'histoire humaine. Aussi voit-on affluer vers la nouvelle Jérusalem les richesses des peuples. Reprenant l'image de la vision de la nouvelle Jérusalem dans Ésaïe 60, Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, écrit, versets 24 à 26, « Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations, toute la richesse des nations. » Et je crois qu'il faut comprendre que tout ce que l'humanité aura produit de bon au cours de son histoire subsistera dans la nouvelle Jérusalem. Tous les acquis de l'humanité, acquis scientifiques, techniques, culturels, toutes les réalisations bonnes et utiles de l'humanité au cours de son histoire trouveront leur place dans la nouvelle Jérusalem après avoir été purifiées de leurs scories. Et elles contribueront à la gloire de Dieu et à notre bien. Pour parler concrètement, je crois qu'on entendra à nouveau les concertos de Chopin ou les symphonies de Beethoven dans la nouvelle Jérusalem et elles seront encore plus, ses œuvres seront encore plus belles qu'aujourd'hui parce qu'elles seront purifiées de leur scorie. Dieu ne laisse pas tomber sa création, mais il va racheter, sauver sa création. Dieu ne fait pas fi de l'histoire humaine, mais il veut aussi sauver l'histoire humaine d'une certaine manière. Et donc nous bénéficierons encore des acquis de l'humanité au cours de son histoire dans la Nouvelle Jérusalem. Ce que nous faisons dans cette vie-ci ne sera pas perdu, mais subsistera pour l'éternité.